Juger les crimes de guerre, anatomie d'un combat moral.
À l'heure où Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, deux chefs d'État, sont inculpés par la CPI, quelle est l'histoire de cet idéal de justice internationale né à Nuremberg il y a 80 ans ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le juriste et écrivain Philippe Sands.
Épisode 4. 1998, Pinochet, un dictateur face à la justice.
J'ai été arrêté alors que j'avais l'immunité diplomatique comme chef d'État, immunité comme sénateur de la République et immunité comme chef de l'armée. Je suis le seul prisonnier politique en Angleterre. Augusto Pinochet, le 19 juillet 1999. Avec moi, Philippe Sands, pour échanger, pour converser autour de la notion complexe de justice internationale et comment juger les criminels de guerre. Là, on est avec Pinochet en 1998-1999. Vous connaissez parfaitement cette histoire, c'est le thème de votre livre qui est sorti chez Albin Michel, 38 rue de Londres, de l'impunité, Pinochet et le nazi de Patagonie. Vous nous direz un mot de qui est ce nazi de Patagonie, qui n'est pas Pinochet, même si Pinochet aurait pu avoir ce surnom au Chili aussi. En quoi c'est important qu'en 1998, je précise à Londres, Augusto Pinochet, ancien chef d'État chilien, ancien président chilien, chef de l'armée, comme il le rappelle lui-même, se fait arrêter.
C'est le plus grand moment depuis Nuremberg. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois dans l'histoire des êtres humains qu'un ancien chef d'État d'un État, le Chili, se fait arrêter par les tribunaux d'un autre État, le Royaume-Uni et l'Espagne, pour crimes internationaux commis dans son propre État. Ça ne s'était jamais arrivé. Pour la première fois, on se pose la question, est-ce qu'un ancien chef d'État a droit à l'immunité pour sa conduite officielle pendant qu'il était chef d'État dans son propre pays. Ça ne s'était jamais passé. Et là, pour la première fois, contrairement à Rwanda et l'ex-Yougoslavie et Nuremberg, je suis directement impliqué.
On va y venir, bien sûr, et creuser cette question-là. Mais pour les plus jeunes qui nous écoutent, Augusto Pinochet, ou Pinochet, c'est qui ? C'est quoi son œuvre ?
C'est un militaire qui, le 11 septembre 1973, mène un coup d'État contre le président élu démocratiquement du Chili, Salvador Allende, un socialiste, qui meurt pendant le coup d'État. C'est un suicide, on pense. Et Pinochet devient chef d'État. Et dans les jours, les mois, les années qui passent, il y a des centaines de milliers de détenus, il y a des centaines de milliers de tortures, les morts et il y a les disparitions. De nos jours, même aujourd'hui, il y a plus de 1300 personnes qui ont disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé, y compris un Français, Alfonso Chanfro, oui, qui joue un rôle central dans mon livre 38
Absolument.
Rue de Londres.
Justement, 38 rue de Londres, c'est quoi ?
C'était un lieu plein au centre de Santiago, l'ancien bureau du Parti Socialiste, exproprié par Pinochet le 11 septembre 1973, qui devient centre de torture, de disparition, et centralement dans l'histoire que j'ai écrit, parce que c'est là où je trouve pour la première fois un lien direct entre Augusto Pinochet et Walter Rauch, ancien
C'est lui le nazi
SS,
de Patagonie.
Qui avait géré le système de camionnettes à gaz en 1941 et 1942. La question que je poursuivis dans le livre, est-ce qu'ils ont travaillé ensemble ? Je me souviens du moment où j'ai appris que Pinochet avait été arrêté. C'était l'après-midi du samedi 17 octobre 1998, c'était mon anniversaire. Je me préparais pour regarder les résultats du football, je suis passionné de football, à 17h. Et il y avait un breaking news sur le BBC, arrestation d'Augusto Pinochet. Incroyable, deux semaines plus tard, je suis à Paris, je suis en train de préparer un procès à la Cour internationale de justice. Il y a aussi les funérailles de mon grand-père, le 30 octobre 1998. Je pars pour cimetière de Pantin, ici à Paris, et je reçois un coup de téléphone à mon hôtel juste avant de partir. C'est mon cabinet à Londres, M. Sands, il y a les avocats de M. Pinochet qui veulent que vous argumentez qu'il a une immunité absolu parce qu'il était chef d'État pendant tous ces actes. J'arrive à la cimetière, je rencontre ma femme, Natalia. Je suis un peu excité, je dois dire, parce que c'est un grand procès. Je lui raconte, elle me dit, est-ce que tu vas le faire ? Je lui dis, bah, tu connais, nous avons ce principe de chauffeur de taxi, comme barrister anglais, on n'a pas le droit de dire non, on ne le fait pas, pour des raisons politiques ou d'autres raisons. Elle est américaine, alors elle a d'autres règles déontologiques pour le droit. Et elle me dit, si tu le fais, c'est le divorce.
Juste pour ceux qui n'avaient pas écouté très bien, si tu le fais, c'est si tu aides Pinochet à s'en sortir au nom de l'immunité que devrait conserver un ancien chef d'État.
Exactement. Je ne l'ai pas fait. On est toujours mariés 30 ans plus tard. Je ne l'ai pas fait. J'étais sauvé par une émission de radio. J'étais interviewé 5 jours auparavant par le BBC et l'intervieweur me demande est-ce que M. Pinochet a droit à l'immunité. Et je réponds finalement, elle me pousse, je comprends pourquoi on a un principe d'immunité pour un chef d'État en place.
Oui.
Mais pour un ancien chef d'État qui n'est plus en place, pour les crimes internationaux, principe de Nuremberg, principe de l'ex-Yougoslavie, principe de Rwanda, je vois pas pourquoi un ex-leader pourrait avoir une immunité. Alors donc, non. Alors j'ai pu me baser sur une exception. Les Britanniques, ils ont toujours des exceptions pour toutes leurs règles. Embarras personnel. J'avais argumenté ouvertement pour le non-immunité de Pinochet. Je pouvais donc pas apparaître devant un tribunal argumenté pour son immunité. Mais la question d'immunité a joué le rôle central dans cette affaire.
Moi, en lisant votre livre, il y a une des choses qui m'a le plus impressionné. C'est à quel point on dit souvent que voter n'a pas de conséquences. Là, c'est parce qu'au pouvoir en Angleterre, il y a Tony Blair, et non pas Margaret Thatcher, que Pinochet peut être arrêté. Racontez-nous pourquoi, et aussi, au passage, quel est le rôle de l'Espagne ? Parce qu'il y a 3 pays, en fait, dans cette histoire. Il y a le Chili, il y a l'Espagne, et il y a l'Angleterre.
C'est possible qu'avec un gouvernement conservateur de Madame Thatcher, les choses ont été différentes. Mais en fait, je ne suis pas sûr. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce que le système qui a joué un rôle, c'est le suivant. Il y a un procureur espagnol qui commence le procès contre Pinochet en 1996, Carlos Castresana. 2 ans plus tard, un juge espagnol, le fameux Baltasar Garzón, en octobre 1998, apprend que Pinochet est à Londres. Il travaille avec un juriste espagnol, Juan Garcés, et le 16 octobre 1998, ils envoient à Londres, à Scotland Yard, par fax, demande d'arrestation, d'extradition.
Parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui ont disparu, torturés, exécutés au Chili.
En fait, finalement, ils se sont penché sur un cas en particulier, un Espagnol qui s'appelait Carmelo Soria. J'avais jamais entendu parler de ce monsieur, mais 20 ans plus tard, en écrivant mon livre, j'apprends que Carmelo Soria, c'est un cousin lointain de ma belle-mère. Et donc, nous avons de la famille en Chili. Ça devient une histoire très personnelle. Mais j'apprends aussi, dans ce contexte, que la cousine de ma mère est une des personnes qui a disparu dans les camionnettes à gaz de M. Rauf. Alors tout ça, fait, c'est lié. Mais revenant
donc,
au 16 octobre 1998.
Le fax à Scotland Yard de Garzón.
Le fax arrive à Scotland Yard, qu'est-ce qui se passe ? Scotland Yard, la police britannique, doit agir là-dessus. Il n'y a pas d'intervention politique à ce stade. Les policiers de Scotland Yard vont directement à un magistrat et ils donnent un morceau de papier demande d'arrestation pour extradition de M. Pinochet. Par coïncidence remarquable, le magistrat ce soir, les tribunaux sont fermés, alors c'est le magistrat...
Ah oui, ça c'est fou ça.
C'est mon voisin, M. Nicholas Evans. Et il a donné une interview seulement à une personne dans les 25 ans qui ont passé, c'est moi, parce que je suis son voisin. Il me raconte ce qui se passe. Les policiers sont arrivés. Il me dit, Philippe, je ne suis pas comme toi, je n'ai jamais étudié Nuremberg, Rwanda, Yougoslavie, je ne suis pas expert dans le droit pénal international. Franchement, je ne connaissais même pas très bien ce nom, Pinochet. Il me donne ce morceau de papier, marqué sur ce morceau de papier, arrestation pour génocide, crime contre l'humanité, torture. Je ne connaissais pas ce que ça voulait dire, ces mots. Alors, j'ai barré tous ces mots et j'ai écrit meurtre, catastrophe. Pourquoi ? parce que meurtre n'est pas un crime international.
Bien sûr.
Les cours britanniques n'ont pas compétence sur un meurtre qui se passe au Chili. C'est une façon de dire qu'en 98, au moment d'arrestation, c'est pas comme de nos jours aujourd'hui. Les gens, à ce moment-là, ne savaient pas vraiment ce que c'était génocide, torture, immunité, toutes ces questions. C'était tout très, très nouveau. Depuis, les choses ont changé. Mais à ce moment-là, c'était comme Nuremberg. C'était un moment absolument révolutionnaire. Ça a des conséquences très importantes. Très récemment, la Cour de cassation à Paris a statué que M. Assad, comme ancien président du Syrie, n'a pas le droit à immunité. Ils ont pris le principe Pinochet, parce que les chambres des Lords, la Cour suprême britannique à l'époque, a décidé en novembre 98 et encore une fois en mars 99, pour la première fois, un ancien chef d'État n'a pas d'immunité pour crimes internationaux. Et ça, c'est un principe très important.
Dans l'épisode précédent, on était en ex-Yougoslavie. Milosevic, quand il est arrêté, c'est au nom de quoi ?
Ça arrive immédiatement après l'arrestation de Pinochet.
Donc c'est lié, enfin les deux.
Alors c'était le grand moment du droit pénal international. Juillet 98, on y viendra, l'adoption du statut de la Cour pénale internationale. On va en parler.
Épisode suivant.
Octobre, arrestation de Pinochet. Et quelques semaines plus tard, pour la première fois, l'inculpation d'un chef d'État en place, Slobodan Milosevic. C'est la première fois dans l'histoire qu'on arrive à cette situation. Et tous ces principes, tous ces développements ont eu lieu à cause de Nuremberg, là où on a commencé.
Je reviens sur Pinochet pour terminer notre conversation sur cet épisode-là de 1998. En 99, j'ai commencé en citant « Je suis le seul prisonnier politique en Angleterre », dit Pinochet. Il n'est pas extradé en Espagne ?
Finalement, il rentre en mars 2000 à Santiago, au Chili, sur la base d'une décision prise par M. Jack Straw, le ministre de l'Intérieur britannique, qui décide que M. Pinochet n'a pas la capacité d'être soumis à un procès pénal. Il n'est pas dans un bon état physique ou mental. On avait des suspicions là-dessus. On pensait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et en fait, l'aspect central de ce livre, 38 rue de Londres, c'est de découvrir une réponse à la question. Est-ce qu'il y avait un accord entre le Royaume-Uni et le Chili pour que M. Pinochet puisse retourner au Chili et ne pas être envoyé en Espagne? Je ne vais pas vous dire la réponse à ce que j'ai découvert. Ça a pris 10 ans, mais j'ai tout découvert.
Est-ce que, sans déflorer cela, est-ce que ça raconte aussi la fragilité et la faiblesse du droit international, toute cette histoire, et plus largement l'histoire que l'on raconte? Il y a le droit, mais il y a aussi la réelle politique, et il y a aussi, on le verra dans les épisodes les plus récents, la force.
Oui à tout ça, et ça évoque aussi les complexités des choses. Moi, je suis partagé intérieurement à ce qui devrait être envoyé en Espagne ou partir au Chili. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a une grande question. L'Espagne était l'ex-pays colonisateur du Chili.
C'est vrai.
Et n'a jamais jugé ses propres crimes dans la période de Franco. Quel droit avait l'Espagne de juger un Chilien pour des crimes commis en Chili? Ça, c'est une grande question.
Et ça rappelle ce que vous nous aviez raconté sur Raphaël Lemkin en 1915. Le Turc et l'Arménien, lequel doit être jugé au final? C'est la question que vous posez et que pose aussi cette histoire. L'épisode suivant sera consacré à la Cour pénale internationale, un espoir fragile. Juger les crimes de guerre, anatomie d'un combat moral, un podcast original de France Inter.